pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Quand ils sortaient, c'était bombardement, la mitraille, la pluie, le froid, la boue, vivre à côté des cadavres, en décomposition, avoir comme seul ami à quatre pattes un rat qui vient vous galoper sur le visage quand vous dormez. Moi, quand j'étais gamin, souvent les vieux, quand ils racontaient leur guerre de 14, ils disaient « ça y est, le vieux con, il recommence, il raconte sa guerre ». Mais maintenant qu'on arrive à un certain âge, on se dit « mais est-ce qu'ils ont vécu ? J'aurais pas voulu le vivre ».
La guerre, c'est pas seulement dans les livres d'histoire, pas seulement des généraux devant des cartes d'état-major. La guerre, c'est pas seulement une chose qui s'étale sur des écrans en info, films ou jeux vidéo. La guerre, les Françaises et les Françaises l'ont connue sur leur sol et dans leur chair. Et la guerre, ce sont des petites gens qui la font, commandés par des gradés bien à l'abri. Et la guerre des imbéciles nous y pousse encore aujourd'hui, comme si les cohortes de noms inscrits sur les innombrables monuments aux morts de nos villes et villages n'avaient rien à nous dire. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off et pour votre radio libre préférée. Et comme tous les ans, aux alentours du 11 novembre, cette émission commémore elle aussi la fin de la première grande boucherie mondiale, avec aujourd'hui une nouvelle balade avec Didier Ledet, historien amateur et passionné, qui va pendant une heure vous guider sous terre dans une carrière de pierre qui servit de cantonnement à des soldats allemands de 14-18. La carrière de Boëri, située sous le fort de la Malmaison dans le petit village de Chavignon, département de l'Aisne, Picardie, sur la tristement célèbre ligne de front du chemin des Dames. Dangereuse exploration des entrailles de la terre à ne pas entreprendre seul et sans équipement et qui requiert un guide extrêmement averti.
Tu vois, ces petites croix-là, ça veut dire qu'il y a eu deux accidents ici. Deux gars qui se sont peut-être fait écraser par un bloc ou par un plafond qui est tombé, quelque chose. Donc c'est qu'il y a eu deux morts.
C'est donc une étrange balade dans l'obscurité qui vous attend aujourd'hui. Et paradoxalement, alors que nous allons parler de choses terribles, comme du quotidien des poilus allemands ou des effroyables conditions de travail des carriers français en temps de paix, on vous invite, si vous le pouvez, à écouter ce reportage underground, allongé, les yeux fermés, pour un voyage sous terre et dans un passé dont on ferait bien de tirer des leçons. Troisième épisode de notre balade dans l'Aisne sur la commune de Chavignon avec notre copain et guide Didier Ledet. Bonjour Didier.
Bonjour.
Le fort de Malmaison qu'on a visité au précédent épisode est là-bas, le cimetière aussi. Là, tu nous as emmené sur un petit chemin, une lisière forestière sur notre gauche et un champ à droite. On est où et on va voir quoi?
Alors là, on est à vol d'oiseau, on est à 500 mètres du fort de Malmaison et on est sur le site des carrières de Boëri, les carrières qui ont servi à la construction du fort. Derrière toi, là, 100 mètres dans le petit bosquet, tu as l'entrée de la carrière de pierre dure. Celle qui va sous le cimetière et sous le fort, carrière qui disposait d'une cheminée pour sortir la pierre directement à l'intérieur du fort, que les Allemands ont transformé pour y installer leur observatoire. Et là, on va descendre dans la carrière de pierre tendre qui a servi à faire tous les moellons de la construction de la maçonnerie, qui est une carrière beaucoup plus grosse, puisque là, on a des plafonds qui sont à 3 mètres de hauteur et des galeries qui rayonnent sur plusieurs centaines, puisque la dernière cheminée d'aération se trouve à peu près à 500 mètres dans le champ. Okay. On doit avoir 2-3 hectares d'exploitation de pierres souterraines. Carrière qui a servi aussi de site de refuge pour les soldats allemands pendant toute la période entre septembre 1914 et octobre 1917.
Un lieu de cantonnement aussi.
Lieu de cantonnement, voilà. Donc on va revoir quelques traces d'habitation, des choses comme ça.
L'occasion d'évoquer aussi le quotidien du... Alors est-ce qu'on dit le poilu aussi pour les Allemands ?
Les Allemands s'appelaient aussi les poilus. On a les poilus français, les poilus allemands. Ils s'appelaient pareil. Alors, il y a beaucoup de dénominations parce qu'ils avaient une barbe de plusieurs jours. Bon, ça, c'est peut-être vrai au début de la guerre, mais après l'invention du gaz toxique, il valait mieux éviter d'avoir une barbe pour l'étanchéité du masque à gaz. Mais il s'appelait les poilus. Dans le livre Casque d'acier d'Ernest Junger, il parle justement des poilus allemands. C'est une dénomination commune. Voilà.
Sensiblement, le sort du poilu français et le sort du poilu allemand sont relativement comparables.
C'est la même chose. Ils vivent la même chose. Voilà. À la différence, c'est que les Allemands prenaient plus de temps à améliorer le cantonnement de leurs soldats que les Français. Les Français étaient toujours sur une possibilité d'offensive rapide, donc ils creusaient beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins.
Et puis fortifiés moins en béton aussi.
Fortifiés moins en béton, alors que les Allemands, eux, c'était béton, béton. Voilà.
On va aller voir ça. Donc on a tourné sur notre gauche pour s'enfoncer sur un chemin forestier qui descend.
Alors tout ce que tu vois autour de toi, qui ressemble à des tas et des monts, on appelle ça des cavaliers. C'est tous les matériaux qui étaient sortis des carrières, qui étaient mis en tas. Les trous, les bosses aussi, c'est le résultat des bombardements de la guerre de 14. Donc là, on va tourner sur la gauche. Tu vas sentir la fraîcheur qui va arriver tout doucement, parce qu'on va arriver près de l'entrée de la carrière. Et tu vas avoir l'air frais de la carrière qui va te saisir d'un seul coup.
Et donc en préambule de balade, tu m'as confié cette lampe torche. Ça, c'est de la lampe torche, hein. Ça pèse bien lourd.
Alors là, on va pénétrer, on va être à une profondeur à peu près de 10 mètres par rapport au plateau, sous la couche de calcaire, ce qu'on appelle le calcaire gélif, qui subit les dégradations du gel. On va être sous une épaisseur à peu près de 10 mètres de roche, puisque sous le calcaire gélif du plateau, eh bien, on a une épaisseur à peu près de 20 mètres de très bonne pierre. Cette pierre qui va être utilisée à l'époque de la construction, de la reconstruction de Paris à l'époque d'Haussmann, puisque Haussmann va faire ouvrir des carrières un peu partout parce que la demande de pierre est telle. Et ici, on a une qualité de pierre qui est très intéressante pour faire du moellon de construction et la pierre dure qui va servir à tout ce qui est construction, comme par exemple les colonnes, les choses comme ça. On a besoin d'une pierre très dure pour résister aux charges. Et ici, on a toutes ces qualités de pierre-là qui vont être exploitées. En 1896, il y a 200 carrières qui sont exploitées sur le chemin des Dames. Tu as des petites carrières qui font quelques milliers de mètres carrés, quelques hectares, puis des très grandes, par exemple comme Coligy, où on a une très belle pierre avec un grain très fin pour faire de la sculpture. La pierre qui a servi à sculpter certains ornements de Notre-Dame viennent de Coligy. Il y a 16 hectares, il y a 17 km de galeries souterraines. C'est impressionnant. On s'aperçoit qu'il n'y a personne qui est venu ici depuis longtemps, puisque eh bien, tu vois que les ronces n'ont pas été piétinées. On commence à sentir la fraîcheur.
Ah oui, c'est flagrant.
Alors, c'est comme ça que je trouve les carrières, souvent l'hiver, quand il fait très très froid. Vu que la carrière est toujours à la même température, on a 14 degrés. Souvent, quand il y a des hivers froids mais humides, on a une légère vapeur qui sort des carrières et c'est comme ça qu'on les repère. Quand tu vas te promener ou tu prends la route et puis que dans les talus, tu vois qu'il y a une légère brume qui sort, et bien souvent, c'est qu'il y a un trou pas loin.
C'est le choc thermique, quoi.
Voilà, c'est le pont thermique.
Ouais, le pont. Ouais.
Donc voilà l'entrée de la carrière. Il faut imaginer qu'il y a des hommes qui vivent à l'intérieur pendant la guerre de 14. Aux entrées des carrières, souvent, c'est là où tu as les roulottes, où on fait à manger, on prépare la nourriture. C'est pour ça que tu vas voir souvent l'entrée des carrières, le plafond est bien noirci. Et puis, il faut imaginer que dans une carrière comme ça, ici à Boëri, il y a 2-3 000 hommes qui peuvent vivre sous terre. 2-3 000 hommes qui vivent, qui dorment, qui mangent, qui font leur toilette ou pas. Sachant qu'à l'époque, l'hygiène n'est pas une des priorités du soldat. Mais ils sont à l'abri. La seule chose qui les tient en contact avec l'extérieur, c'est la vibration de la pierre lorsque l'ennemi pilonne. Parce que les Français connaissent les carrières. Elles ont été exploitées au fin du 19e siècle, donc ils les connaissent. Et comme ils savent que les Allemands les ont occupées, eh bien, ils vont les pilonner avec du gros, des gros calibres comme 380, 420 mm. Et quand ça tombe près, ben, ça vibre à l'intérieur.
Et ça marche, enfin, une stratégie
Ah oui, ça marche, puisque quelquefois, certains obus ont réussi à percer les carrières et à détruire quelques soldats. Par exemple, la carrière de Montparnasse, toujours sur la commune de Chavignon, mais de l'autre côté, le plafond s'est effondré sur une chambrée, et on pourrait voir à l'intérieur, si on y allait, les lits en métal qui ont été écrasés. Et il y a encore des hommes en dessous, puisque l'armée allemande, dans les années 90, avait fait une inspection de la carrière, justement, pour essayer d'aller récupérer les corps de leurs camarades. Mais malheureusement, les blocs de pierre font plusieurs dizaines de tonnes. Donc, un trop gros travail d'ingénierie à mettre en place. Donc, celle-ci, c'est une des carrières de Boëri. On a la Malmaison, et puis à côté, on a la ferme de Boëri. Donc, on appelle ça les carrières de Boëri. Et au mois de juin, juillet, août 1917, on dit que les loups sont dans Boëri, puisque les Allemands sont planqués là-dedans. Et quelques patrouilles françaises qui arrivent aux entrées disent que le Boche est là. Il est là. Et comme je te disais, il y a des communications de certaines carrières avec la partie nord du chemin des Dames, qui permet aux hommes, aux soldats, de monter à l'abri directement en première ligne.
Et là, de cette entrée, donc, elle fait quoi? Je sais pas, 3 mètres de haut sur
6 mètres de large
à peu près. Là, ouais. Là, il y a 2 à 3 000 bonhommes qui passent par là, en fait, pour aller s'abriter, manger, dormir.
Voilà. À l'intérieur, on pouvait mettre 2 à 3 000 hommes. Je te dis, il faut imaginer l'intérieur avec des chalits. Alors, des chalits, c'est des lits faits avec des poutres de bois et des sommets de grillage recouverts de paille. Donc, il faut imaginer de la paille fraîche, de la paille pourrie. Il faut imaginer les hommes dans un état d'hygiène un peu rudimentaire. Et surtout, c'est qu'à l'époque, on parle de la cavernite. La cavernite, c'est une maladie que les poilus ont. C'est parce qu'ils respirent les poussières de litière en décomposition. Et ça produit des champignons de décomposition. Et le problème, c'est qu'en respirant ces champignons-là, eh bien, les hommes attrapent la cavernite. C'est une bronchite chronique. Donc les hommes se mettent à tousser, ont des un peu comme la tuberculose, voilà. Ce sont des toux chroniques. Et en vérité, c'est dû à cette intoxication aux champignons de litière. Quand tu dors dans la paille pourrie, remplie de poux, de puces, et dans une hygiène corporelle très douteuse, puisque tu as passé 8 heures... dans les tranchées pleines de boue, à côté des cadavres, des choses comme ça, sous le tir de l'artillerie. Quand tu rentres là-dedans, moi, tu te sens protégé. Mais c'est une vie de bête. Ils vivent comme des rats. Mais à l'abri des bombardements, donc ils se sentent heureux. On allume les lampes et on va les voir dedans.
On rentre dans la carrière. Alors, niveau température, c'est plus du tout la même chose. Hein.
12 degrés, été comme hiver. On est à la température du chablis, du pinard, mais ça m'étonnerait qu'on en trouve. Alors, tu vois, sur le côté, il y a ce qu'on appelle des chambres de taille, qui sont remplies de gravats. Tout simplement, c'est qu'à l'époque de l'exploitation, on ne se casse pas la tête à sortir les matériaux qui ne sont pas utilisés. Donc, on va les mettre dans des pièces qui ne sont plus exploitées. Et on appelle ça des bourrages, voilà. Et quelquefois, on bloque ces bourrages avec des petits murs de pierre sèche, et là, on appelle ça des hagues et bourrages. Par la suite, après la guerre de 14, on va utiliser ces carrières comme champignonnières, et on va reprendre ces gravats, ces déchets de taille, que l'on va concasser pour en faire une poudre, qui va servir à faire les litières de champignons. Mais la culture du champignon est très rapidement pas rentable, donc bah, on arrête. On arrête, c'est trop de contraintes pour pas assez rentable, donc on laisse tomber. Là, ici, tu vois très bien le genre de travail d'extraction de la pierre. Hein. Donc, tu t'imagines des hommes sur des échafaudages, sur des tréteaux avec un pic, en train de taper dans la pierre pour sortir des blocs qui font à peu près 2 mètres de haut sur 60 cm de côté. Et après, ces blocs-là vont être découpés à la scie, des scies à deux bonhommes pour en faire des parpaings de pierre qui ensuite seront sortis pour construire. Ça va servir à construire le fort de Malmaison, mais les autres carrières vont servir à construire les abbayes, hein, comme l'abbaye de Cuissy-Geny, l'abbaye de Vauclair, toutes les cathédrales de Lens, Soissons, et ainsi de suite. Quand les Allemands découvrent ces carrières-là en 1914, c'est du pain béni, puisque là on a du casernement souterrain à l'abri des bombes. Alors au plafond, tu remarques qu'il y a des strates de pierre qui sont très, très abîmées. Et bien ça, c'est le résultat des bombardements pendant la guerre de 14. Je te disais tout à l'heure qu'on a plusieurs couches. Là, la galerie est creusée dans la partie de la pierre la plus dense. Mais au-dessus, on a ce qu'on appelle du calcaire gélif, voilà, qui subit le travail des saisons. Et tu vois qu'il y a plusieurs strates. Quand ça pilonne, les vibrations font tomber des morceaux. Là, ici, tu as le pilier d'à côté de nous qui est complètement lézardé, complètement explosé, parce qu'il y a toute la pression de la pierre, plus la pression des explosions. On peut, dans ces carrières-là, quelquefois, dans les remblais, retrouver quelques restes d'occupation de la guerre de 14, donc des gamelles, des bidons, des restes de godillots, des bouteilles, des chalis. Les chalis, ce sont des lits en planches et en grillage.
Bien entendu, ce genre d'exploration-là, ça comporte aussi des dangers, je suppose. Enfin, quand tu parles de fissuration, obscurité, déjà, on a des bonnes lampes.
Déjà, il faut avoir des bonnes lampes avec des batteries qui sont chargées. Ensuite, il ne faut pas faire la mouche dans un bocal, ça veut dire aller à droite, revenir à gauche, tourner, faire un peu n'importe quoi, parce que ces galeries-là, tu peux avoir plusieurs dizaines de kilomètres de galeries et tu as vite fait de te perdre. Bon, moi, j'ai l'habitude, parce que ça fait des années que je visite les carrières, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui rentrerait là, par exemple, un idiot, parce que ça, j'appelle ça un idiot, qui voit ça, il rentre avec son téléphone portable, il avance, et à un moment, plus de batterie. Tu es à 200 mètres de l'entrée, dans le noir le plus profond. Tu fais comment pour sortir ? Et là, on est à 10 mètres sous terre, donc le réseau, tu peux t'asseoir dessus, quoi. Avec mon épouse et des amis, on fait des explorations de carrière, mais on est très prudent, on a toujours le matériel qu'il faut. Quand c'est des galeries comme ça, bon, tu suis la galerie, souvent c'est des galeries, on fait le tour, on revient à l'entrée. Mais lorsque tu as des piliers, tu n'as pas de galerie, c'est une forêt de piliers. Là, tu as vite fait de tourner en rond et à te perdre, quoi.
Tu fais quoi, technique petit pousset, non ? Tu mets des jalons
Oui, souvent, on prend des repères lorsqu'on avance. Voilà, on repère qu'à tel endroit, on a fait ça. Et puis, on est très prudent. Surtout, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est se mettre à paniquer. Et là, tu te mets à tourner en rond et puis c'est la panique. Voilà. La plupart du temps, tu repères les galeries principales. C'est que tu remarques, là, ici, tu le vois. Tu vois de chaque côté l'empreinte des charrois qui sortaient la pierre. Donc souvent, les galeries principales ont cette forme-là. Donc en suivant une galerie comme ça, tu retombes à l'entrée la plupart du temps.
Ce n'est pas une activité sans risque.
Voilà, il ne faut pas faire l'idiot. Parce que tu vois, ici, là, on arrive à un carrefour. Ouais. On dit toujours, on prend toujours à droite. Ouais. On prend toujours à droite, mais quand il n'y a pas de galerie à droite, des fois, tu es obligé de tourner à gauche. Et où est-ce qu'on a tourné à gauche ? Est-ce qu'on a tourné à droite ? Donc souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on prend la galerie principale, on va jusqu'au fond, et après, en revenant, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on prend les galeries annexes sur les côtés, et on a une petite technique, c'est qu'on laisse une petite bougie au carrefour. Comme ça, on sait que le carrefour de où on est parti, c'est là. Voilà. Et la petite bougie, tu la vois de là.
Typiquement, il y a une bifurcation. Alors, là.
Il y a une bifurcation, mais tu remarques là, les morceaux de plafond qui sont tombés. Et là, on voit bien, là, comme je te disais tout à l'heure, la trace des engins qui sortaient. Donc la galerie principale, elle part par là. Alors tu vois au plafond, tu vois toutes ces petites taches noires. C'est la trace des lampes de carrier. À chaque fois que tu vois une trace noire, c'est qu'une lampe a été posée pour sortir un bloc. Tu vois, regarde ici. Tu vois le bloc là, que j'éclaire ? En haut, tu as une trace noire. Tu vois, ici, il y a une partie de bloc, tu vois. Regarde, ici, il y a des gros blocs qui ont été sortis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, petites taches noires. Et au plafond, là, ici, tu as une petite entaille. Là, regarde, tu en as encore une ici. Là, tu en as une ici. Eh bien, on mettait une petite planchette et on posait la lampe dessus. Et la fumée produisait cette petite tache qui est au plafond. Alors, tu peux imaginer le nombre de blocs en voyant le nombre de taches. Voilà, tu as la petite entaille et ici, tu as la tache noire. Des petites lampes, soit des lampes à huile, soit des lampes à acétylène. Tu vois là, on voit très bien la réexploitation. Après la guerre de 14, on va ressortir de la pierre de ces carrières, parce qu'il faut reconstruire les villages aux alentours. Donc on ne va pas s'embêter à aller rechercher de la pierre tout au fond, puisqu'il y a à peu près 20 mètres d'épaisseur de bonne pierre. Et bien ici, tu vois, au lieu de recreuser des galeries horizontales, ils ont repris ce qu'on appelle un sous-chevage dans le sol. ils ont réexploité la pierre. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'échafaudage, puisque au lieu de travailler en l'air, on travaille en bas. Et puis, c'est la même technique. Et on ressort de la pierre. Tu vois, toute cette partie-là a été réexploitée en bas. Tu vois, regarde, là, on le voit très bien ici. Et on voit l'ancien niveau de la carrière avant la reconstruction. Il fallait de la pierre, donc on est venu rechercher de la pierre. Là, je vais dire que quand c'est tombé, là, tu vois les blocs qu'il y a par terre, là, quand le plafond est tombé, j'aurais pas voulu être en dessous. Donc on va continuer à avancer. On va suivre cette galerie principale. Alors il faut imaginer les poilus pendant la guerre de 14, les soldats allemands. Hein. Dans chaque pièce, tu peux avoir une dizaine d'hommes donc, qui ont leur chalet ou alors leur tas de paille. Et puis bon, ben, on vit là-dedans comme on peut. Alors tu vois ce tas de tôles, là, on appelle ça des tôles métro. Ce sont des tôles qui servaient à étayer les tranchées ou à fabriquer des abris dans les tranchées. Alors une tôle comme ça, ça fait à peu près 100 kilos. Il fallait deux hommes pour les transporter. Alors t'imagines une tôle qui fait 2 mètres de long sur 1,20 m à 1,50 m de large, qu'il fallait transporter dans les boyaux pour les emmener en première ligne.
Ce amas de tôle qu'on voit là, il a plus d'un siècle.
Ouais, t'as fait combien ? 2,50 m sur 1,20 m. Et avec ça, on faisait des abris dans les tranchées.
Et elles sont stockées là depuis la Première Guerre mondiale, celles-là ?
Oh ben celles-là, elles ont dû être récupérées peut-être au fond de la carrière ou dans les bois aux alentours. Et puis elles ont été mises là. Alors le cultivateur, à l'époque, après la guerre, on a fait des stocks de patates, ici des stocks de betteraves. Peut-être qu'il avait l'intention d'en faire quelque chose. Souvent, on en faisait des bâtiments agricoles. C'est de la tôle de 4 mm, hein, c'est encore bien costaud. Ah, les vieux, ils adoraient ces tôles-là parce que c'était imputrescible. Et puis là, tu vois cette pièce qui a été complètement remblayée par les déchets d'extraction. Mais ça, c'est avant guerre de 14. On ne s'embêtait pas à sortir de la pierre, donc on remplissait les carrières, les endroits qu'on ne voulait plus. Tu vois, là, ça a été rempli complètement. Il faut imaginer, c'est que la galerie, elle continue. Hein. Il y a peut-être 4-5 mètres encore derrière tout ce remblai de gravats avant d'arriver au fond de taille. Ici, on voit bien au plafond les traces de lampes. Hein. Avec quelques graffitis, des fois, tu vois, comme ça, ôtés, voilà. C'est des carriers qui mettaient leurs initiales.
Est-ce qu'il y a des photos, des documents qui racontent la vie des poilus, leur quotidien ici ? Est-ce qu'il y a des témoignages de soldats allemands ?
On a quelques photos de la carrière de Montparnasse, mais il y en a très, très peu. Parce que c'était tout un travail de faire des photos. Hein. C'était à l'époque, c'était des flashs au magnésium, tout ça. Donc c'était.
Et du témoignage écrit.
Témoignage écrit, oui, on en a quelques-uns. Mais c'est pareil, c'est quelques-uns hein, qui racontent qu'ils vivent comme des rats sous terre, dans l'humidité, la puanteur, la fumée. Voilà, c'est quelques témoignages par-ci par-là.
Alors là, on est toujours sur le chemin principal, quoique je ne vois plus les traces de roues, vraiment. Ah oui, elles sont là, ouais. Parce que là, il y a plusieurs possibilités de couloirs. On pourrait déjà se paumer, là. Hein.
On est dans un gros atelier de taille. On a des piliers, là, tu vois. On a l'impression que c'est des galeries, mais en vérité, c'est des piliers. Okay. Tu vois, c'est plusieurs piliers. Là, tu as un gros pilier, là-bas, tu en as un autre, là, tu en as un autre. On est dans des exploitations à piliers tournés. Et puis avec cette galerie principale qui va te permettre d'aller dans d'autres endroits. C'est vrai que tu aurais vite fait de te perdre hein, si tu ne fais pas attention. Voilà. Puis tu vois aussi ces traces-là qui sont représentatives des galeries principales. C'est les moyeux des chariots qui sortaient la pierre qui frottaient. Donc tu vois, regarde, on en a aussi ici. Là. Il y en a qui ont mis des flèches aussi pour ne pas se perdre. Voilà. Là, tu as un bourrage avec une hague. Une hague, c'est un mur de pierre sèche. Tu vois le volume du bloc. Ça, c'est un bloc qui était prêt à sortir. Donc il faut imaginer le carrier avec sa pioche à ce qu'on appelle un pic, une pioche à deux pointes, qui va creuser sur les côtés, qui va creuser en haut. En dessous, il va faire un tiroir. Voilà. Quand il est arrivé au bout de la longueur du manche de son outil, eh bien, il va mettre des coins en haut et il va taper. Et par pression, le bloc va casser et va tomber sur un lit de gravats. Ensuite, avec soit des animaux ou avec des treuils, on va sortir le bloc. Et on va l'emmener dans une chambre de taille où là, avec des passe-passe, donc des grandes scies, on va le redécouper en petits parpaings de 50-50-50 parce qu'un bloc de pierre comme ça, ça ne vaut rien du tout. Qu'est-ce que tu vas en faire ? C'est intéressant si tu as des parpaings pour les maçonner. Donc il faut que la pierre, elle sorte prête à être travaillé. Ou alors, à l'époque d'Haussmann, on va faire venir le chemin de fer. Donc il va y avoir des petits trains sur voie étroite des deux Couvines qui vont pouvoir emmener des blocs de plusieurs tonnes directement à Paris. Ils vont être travaillés directement sur place.
Un bloc, c'est plus d'un mètre de large sur 1,50 m de haut.
Et... ce sont des blocs qui font 10-12 tonnes. Mais grâce à la machine à vapeur et au chemin de fer, on peut déplacer ces énormes blocs.
Ouais, c'est impressionnant, hein. Je viens de braquer ma lampe torche vers la gauche. Ça s'enfonce loin, apparemment. Tu disais, là, ça court, la dernière cheminée d'aération, elle est à 500 mètres d'ici,
ouais,
dans un champ.
À plus de 500 mètres, hein. Ouais. Là, on va prendre cette galerie-là.
Donc on quitte le chemin principal ou on est toujours sur...
Regarde. Ah oui, je vois toujours la trace, tu vois, du passage. On a toujours, tu vois, ces traces de frottement. Alors, il faut imaginer, c'est que la première galerie, le moyeu du char arrière qui transportait la pierre, était à cette hauteur-là. Donc ici, donc on voit bien les épaisseurs qu'ils ont sorties. Hein. Voilà. Puis surtout, tu vois, cette réutilisation en soubassement après la guerre de 14, on va reprendre la pierre plus facilement.
Quand tu me disais, quand on est 2 à 3 000 hommes ici, là je commence à comprendre, parce que c'est gigantesque.
Tu vois la surface. Hein. Alors il faut imaginer à l'époque... 2-3 000 hommes qui vivent là-dedans, c'est du bruit. Ouais. La vibration du sol quand les Français bombardent, puis c'est les hommes qui crient, qui parlent, qui chantent, qui rotent, qui pètent, voilà, qui font leurs besoins dans des endroits qui ont été aménagés en latrine. Donc il faut imaginer l'odeur d'hommes mal lavés vivant quelquefois sur de la paille fermentée, donc du fumier. C'est impressionnant, hein. Tu vois le trou là qu'il y a dans... Eh bien, c'est un bloc de pierre qui a été sorti. Donc, tu t'imagines le travail qu'il faut. On a l'impression de voir un gros tiroir, là.
Oui, c'est là. Une loge, quoi.
Ouais, une loge. Eh bien, imagine qu'on a été chercher un bloc de pierre, là.
Dans la paroi, il manque un immense cube d'un mètre de haut sur quasiment deux de large et quasiment deux de profondeur aussi. Ça, on dirait que oui, on a retiré un énorme tiroir de la paroi, quoi.
Alors, c'est un travail qui est fait... par des ouvriers, surtout c'est qu'ils étaient payés au bloc sorti. Plus tu sortais le bloc, plus tu gagnais. Une dame me racontait que son père, après la guerre de 14, dans les années 20, travaillait dans une carrière juste à côté. Les jours de paye, sa mère allait chercher la paye pour éviter que son mari la boive. Et quelquefois, eh bien, il avait tellement bu son salaire qu'il travaillait presque jour et nuit, dormait dans la carrière pour faire le maximum de rendement, quoi. Parce que tu travaillais pas, tu mangeais pas, quoi.
Des vies de chien, quoi.
Un peu comme les Indiens aujourd'hui qui travaillent à découper au chalumeau des bateaux que l'Occident leur envoie pour les dépolluer. Les hommes travaillent avec des chalumeaux en tongs, en short, dans des mares de mazout. Ils découpent des tuyaux enveloppés d'amiante, tout ça pour une misère, pour quelques euros par jour. Et puis nous, à côté, eh bien, on prône l'écologie, le bien-vivre, et on envoie nos merdes en Asie. Tu vois un peu.
C'est très impressionnant. Moi, ce que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure, là, c'est qu'il y a vraiment matière à se paumer ici. Hein.
Ah oui, je fais pas attention.
Je viens de braquer ma lampe torche sur la droite, et pareil, il y a un très long couloir qui s'enfonce par là-bas.
Regarde le plafond.
Oui, il y a plein de saignées dans le plafond, ouais. Comme si on s'apprêtait à faire tomber ces blocs-là.
Eh bien, il faut imaginer que les blocs sont tombés du plafond. On a deux hauteurs de travail. On est dans un autre système d'extraction. Tout à l'heure, à l'entrée, on était dans du travail au pic. Et ici, on est au travail à la lance. La lance, c'est une barre de fer qui fait 40-50 kilos, qui fait 4 mètres de long, qui fait à peu près 5 cm de diamètre, qui est suspendue au plafond avec une chaîne. On prend cette lance qu'on va taper dans la pierre. Elle est en léger déséquilibre. Ça veut dire que dès l'instant où elle a tapé, elle va avoir un effet de rebond, comme ça, pour faire sortir le petit éclat de pierre. Et là, on sort des blocs qui sont tout à fait différents. Parce que regarde, ici, on a des blocs qui font 2,50 m de long sur 4 m de haut, sur 2 m de large. Donc là, on a des blocs qui font 10-12 tonnes, qui vont être sortis grâce à des locomotives ou à des travaux avec des treuils. C'est énorme, regarde le volume. Tu as l'empreinte au plafond du bloc. Hein. Alors il faut imaginer ça, c'est quand ça tombe. C'est du travail de force. Hein.
Qu'est-ce que c'est le truc en métal là, qu'on voit dépasser
Communément, on appelle ça un pélo. Un pélo, chez nous, c'est de l'argot. C'est un obus de 75 à percutant. C'est un obus français de 75 qui a fini ici. Alors, quelqu'un a dû le ramener. Voilà. C'est un obus de 75, typique.
Voilà. Mais c'est lourd.
Oui, dedans, tu as 250 grammes de mélinite.
Complètement rouillé.
Oui, mais à l'intérieur, tout est neuf. Hein. Il y en a souvent. Comment vous faites pour savoir s'il est encore dangereux? Alors, tu le poses par terre. Tu vas acheter une masse de 500 grammes et tu tapes dessus 10 fois. S'il est dangereux, avant le 10e coup, il va exploser. C'est de l'humour. Hein. Attention, il ne faut pas le faire. Hein. Il n'y a aucune manière de savoir s'il est dangereux. Ça, c'est un obus. Tu vois ici, les soldats ont même retiré la bague de cuivre. Tu vois, normalement, tu as une ceinture de cuivre. Là, elle a été enlevée parce que les poilus, ils aimaient bien transformer le cuivre en bijoux, tout ça. Mais là, c'est un obus qui a été tiré, qui n'a pas explosé. Ça, c'est le percuteur. C'est un percuteur instantané. Normalement, au moindre choc, il devait exploser. Pourquoi il n'a pas explosé, on ne sait pas. Mais il y a quand même un soldat qui a eu le courage de lui enlever la ceinture de cuivre. Alors, il faut savoir qu'on fait ça avec un marteau et un burin. Hein.
C'est donc... pas conseillé.
Non, c'est pas conseillé du tout, du tout, du tout.
Tu le disais là précédemment, on trouve jusqu'à 70 tonnes de munitions qui émergent du sol tous les ans dans le coin. Là. Ben ça, ça en fait partie.
Alors, regarde, tu as des restes. Encore. Ça, ce sont des bidons de, sûrement des bidons de pétrole. Pétrole qui servait à remplir les lampes. Donc là, on est dans une partie. On est réexploitation après la guerre de 14. Hein. Toute cette partie où on est là, ça a été recreusé après la guerre de 14, justement quand il y avait besoin de pierres pour reconstruire les villages aux alentours. Alors ça, c'est du matériel qui servait à trier le cran, tu vois, les déchets de carrière pour en faire de la poudre pour les champignons, pour la culture des champignons. Voilà, regarde.
Alors là, on arrive, il y a au-dessus de nos têtes une cheminée. Alors, c'est chaud. Ah oui, on voit la lumière du jour.
On est dans le bois. On est le long de la route, on est dans le bois. Ça, ce sont des cheminées d'aération qui permettent de ventiler la carrière. Et souvent, tu vois ici, au pied...
L'extérieur, il a quoi, 15 mètres au-dessus de notre tête, peut-être ?
15 mètres, 10-15 mètres. On est encore dans la bonne pierre. Et après, ils ont bétonné parce qu'on est dans de la pierre gélive, la pierre qui est friable.
Bon, bah, il fait toujours beau dehors, de ce qu'on voit 15 mètres en dessous. Là.
Ces cheminées servaient à ventiler la carrière aussi. Parce que tu as remarqué tout à l'heure, quand on est arrivé, on a l'air froid qui était aspiré par la chaleur de l'extérieur. Et l'hiver, c'est l'inverse. C'est l'air chaud de la carrière qui est aspiré vers l'extérieur. Mais la ventilation, à un moment, elle ne se fait plus naturellement. Donc, on faisait ces puits qui faisaient un courant d'air pour ventiler la carrière. Et souvent, sous les puits, on trouve... Alors là, c'est du bricolage. Mais souvent, sous les puits, on trouve des fourneaux qui ont été maçonnés où on brûle du charbon de bois pour faire une colonne d'air chaud. Et cette colonne d'air chaud va aspirer l'air de l'extérieur. Tu vois, ça fait un appel d'air. Voilà. J'ai trouvé un jour sur une brocante un livre qui s'appelle « La culture du champignon en souterrain ». Tu vois, tu sens l'air chaud là ?
Oui, c'est très surprenant.
C'est surprenant. Hein. Et c'est parce que c'est le pont thermique. L'air chaud qui vient de l'extérieur fait un appel d'air avec l'air frais. Et là, on sent cet effet. Tu vois, puis là, c'est froid.
Oui.
Là, c'est froid et tout à l'heure, c'était chaud. C'est le pont thermique. Tu as l'air froid qui va se réchauffer, qui va être aspiré, et des fois, c'est l'effet inverse. Ah, c'est surprenant. Hein. Là, tu viens de comprendre cet échange entre le froid, l'air froid de la carrière et l'air chaud de l'extérieur. Et puis là, on sent l'air chaud qui... C'est impressionnant. Hein. Donc c'est impressionnant. Là, tu vois très bien le volume des blocs qui ont été extraits. Alors imagine quand un bloc comme ça tombe, il faut être sûr de son coup. Hein. Parce que si tu le prends sur les pieds...
Là, ça continue encore par là-bas.
Ça continue encore par là-bas. Voilà. Tu vois, on a arrêté d'exploiter, donc on a mis tous les déchets. Voilà. Ça continue par là. On va faire le tour comme ça. Donc, on va aller un peu plus loin, voir si on retrouve les gros blocs qui sont toujours ici. Mais là, on est en fond de galerie. Alors, tu vois sur les murs, tu vois cette couleur un peu bleuâtre. Ça, c'est du lait de chaux pour désinfecter la carrière. Avec des vers morels, on mettait de la chaux vive, du lait de chaux, pour désinfecter, pour éviter la propagation des cochonneries. Et puis, à l'époque de la culture du champignon, on va mettre même ce qu'on appelle de la bouillie bordelaise, qui va empêcher la prolifération des champignons non désirables. Bon, ben on va pouvoir ressortir, hein, si on retrouve la sortie. Là, on a fait à peu près 300 mètres sous terre depuis qu'on est rentré, en ligne droite. Alors, tu imagines si on avait pris toutes les petites galeries. Tu vois, là, quand j'éclaire dans le fond, ça, là, c'est, ça a été complètement remblayé, mais ça continue, hein, regarde. Si on passait par-dessus les remblais, là, on pourrait peut-être encore faire 30, 40 mètres, 50 mètres avant d'arriver au fond de taille. Voilà, la galerie, elle repart encore par là. Hein. Donc après, tu peux passer des journées entières, comme ça, à tout inspecter.
C'est ce que tu as fait, toi ?
Ouais, on est... Quand tu vas dans une carrière, soit c'est une carrière où tu as beaucoup de traces de vie. Donc là, tu vois, là, ici, on est dans une partie après-guerre de 14, donc on n'a pas de graffiti. Mais quelquefois, tu peux tomber sur des carrières où il y a des centaines de graffitis, des sculptures, des choses comme ça. Alors, si tu veux tout photographier, bah là, tu passes des journées. Hein. La carrière de Coligny, où on a été la dernière fois, je te dis, il y a 15 km de galerie. Tu as des centaines de graffitis allemands, des petits graffitis, des belles sculptures, des beaux dessins aussi qui ont été faits au crayon bleu, tout ça. Donc là, tu peux passer des journées entières à tout photographier, quoi.
On nous raconte les batailles, les généraux, les trucs comme ça, et beaucoup moins le quotidien du soldat. Bon, on a évoqué des choses qui ne sont jamais dites dans les livres d'histoire, mais tout simplement l'odeur. On ne parle jamais de l'odeur des choses. Alors, ça a l'air très bête à dire comme ça, mais parce que ça l'est. Mais en fait, bah voilà, oui, un soldat, ça transpire, ça chie, ça urine, ça sent. C'est un truc qui m'a frappé. Je sais pas si c'est un rapport direct, mais je m'intéresse depuis assez longtemps au phénomène de la déportation de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une chose, en fait, qui n'est jamais racontée par les historiens. C'est tout simplement aussi l'odeur. Qu'est-ce que ça sentait là-dedans, quoi ? Enfin, la mort et tout le reste.
Il ne faut pas oublier, c'est que les hommes vivent dans les tranchées avec les cadavres qui sont à quelques mètres dans les barbelés, les rats, les puces, les poux. Gabriel Chevalier, dans son livre La Peur, raconte qu'il est à Craonel dans une cagnotte, donc c'est un souterrain. Il a la dysenterie et il ne veut pas souiller l'endroit où, avec ses camarades, il vit. Donc il dit... Il dit, il faut que je sorte, il faut que j'aille chier, quoi. C'est ça, il dit ça, il faut que j'aille chier. Puis on dit, mais Gabriel, t'es fou, ça pilonne, les Boches, ils pilonnent. Il dit, oui, mais il faut que j'y aille. Donc il sort du souterrain, il sait qu'à quelques mètres, il y a un petit bout de tranchée qui a été aménagé en feuillet, donc les chiottes de soldats. Et il est en train de poser culotte, et il y a un gars, il dit, ouais, t'as pas le droit d'aller là-bas, c'est le feuillet pour les officiers. Et il dit, s'il y a un officier qui a des couilles de venir m'empêcher de chier, bien qu'il vienne, voilà. Et c'est ça, c'est la vie. C'est comme le poilu raconte qu'il est dans des petits postes en avant des tranchées et il dit on doit rester 8 jours là. Donc c'est 8 jours à plat ventre à écouter ce que les Allemands font, 8 jours à ne pas se faire découvrir. Et comment on fait pour chier ? Voilà, il dit on fait un trou. Voilà, on est à plat ventre, on fait un trou, on baisse notre pantalon, on met un sac à terre au fond du trou, on fait nos besoins dedans, et puis après, ben, on prend le sac, on le replie, puis on le balance chez les Boches. Voilà, parce qu'on va vivre 8 jours là. Donc si on commence à... Même si on rebouche le trou, à un moment, 8 jours à deux bonhommes, ça va en faire des... Il ne faut pas oublier, ben, qu'est-ce qu'ils mangent hein. Ils mangent des choses qui foutent la chiasse, quoi. Voilà.
Parler de témoignages, t'as commencé à 8 jours. Il me semble bien que la chanson de Crohn commence comme ça aussi.
Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. C'est une vie de rat. Voilà, on vit dans la boue, dans la puanteur, dans la crasse. La nuit, on peut sortir parce qu'on est à l'abri, mais la journée, on se terre dans des trous. Faut pas que les Boches nous voient. Parce que dès l'instant où les Boches, ils voient que ça bouge dans la tranchée, paf, ils pilonnent.
Côté les Boches, les Français, en fait. Voilà. On peut inverser le truc.
Mais là, c'est parce que je donne des témoignages français, voilà. Mais c'est vrai que c'était la même chose de l'autre côté.
Il faut bien se dire que les autres ont vécu pareil. Hein.
Par exemple, au moment de la corvée de soupe, des hommes étaient soit volontaires, soit désignés d'office pour aller à l'arrière chercher la soupe. Mais les Allemands ou les Français savaient très bien qu'à telle heure, les patrouilles allaient chercher la soupe. Donc on repérait des endroits où on savait qu'ils allaient passer, puis quand on les voyait, paf, on pilonnait. La corvée de soupe, bon, c'était dangereux, Mais ceux qui allaient à la corvée avaient le loisir d'avoir un moment de repos, parce qu'ils arrivaient à l'arrière, ils arrivaient près de la roulante, ça sentait bon la soupe chaude, ils pouvaient manger chaud, ils pouvaient boire un peu plus que de volonté. Et puis après, bah, ils prenaient les boules de pain, les musettes de ravitaillement, les grosses cantines de soupe, et puis les bidons de pinard, puis ils remontaient vers les premières lignes. Et là, leurs camarades les attendaient avec impatience. Et souvent, ils se faisaient engueuler parce que bah, ils s'étaient arrêtés dans un coin parce que ça pilonnait. Et quand ils arrivaient, bah, dans la soupe, il y avait de la terre. Quelquefois, les bouteillons avaient été percés par des éclats. Donc, il n'y avait rien à bouffer, il n'y avait rien à boire. Et quelquefois, au lieu d'avoir 2 litres de pinard par soldat, bah, il n'y en avait que 4 litres pour toute l'escouade. Donc, on se partageait le pinard. Alors, celui qui revenait en entier de la corvée, bon, ben. Bah, il était content de ramener un petit peu à ses camarades. Quoi, voilà. Le pain arrivait plein de terre. T'imagines, le gars, il prenait des boules de pain, des couronnes de pain, il les mettait avec une ficelle autour de lui. Il faut l'imaginer, il avait 5-6 bouteillons de soupe, une dizaine de bidons de pinard pour ses camarades. Mais quand un obus sifflait, bah, qu'est-ce qu'il faisait? Il plongeait dans la boue, dans le truc. Donc le pain, il fallait le gratter. On a du mal à s'imaginer ça. Franchement, moi je dis que les gens qui aiment s'habiller en poilu au moment des cérémonies, tout ça, bon, c'est bien parce que ça fait rappeler que ces hommes-là ont vécu l'horreur. Mais il faudrait essayer de vivre 8 jours comme eux. Pas seulement avec la boue, mais avec les rats, les puces, les poux, les bombardements. Je ne sais pas si aujourd'hui le français moyen pourrait revivre ça.
Je t'avoue, des fois, pendant l'automne ou quand il fait froid, juste sortir de chez moi et aller sous la pluie, ouais, et te retrouver avec ton fut vaguement mouillé. Ouais. Et j'ai cette pensée, là, je dis, bon, ça va, parce qu'il y en a, en fait, qui restaient les pieds dans la boue, sous la flotte, dans le froid. Enfin, ça, c'est un truc qui n'est jamais raconté. On te raconte les grandes offensives, les décisions de nos glorieux généraux formidables qui, eux, buvaient des chocolats chauds en pyjama de satin.
Ouais, voilà. Comme Nivelles faisait le jour de l'offensive. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, c'est pas compréhensible. Déjà, un jeune, maintenant, nous, on a 50 ans passé, lorsqu'on leur dit qu'on allait encore faire caca dans les toilettes au fond du jardin, qu'on se lavait dans une bassine parce qu'il n'y avait pas de salle de bain. Ah, mais c'était le Moyen-Âge. Ben non, c'était la vie dans les années 60. Maintenant, on vit dans un monde où c'est la génération clic. Tu as besoin de quelque chose, clic. Amazon, clic, Facebook, clic machin, clic bidule. Et puis, tu n'as plus la notion du sacrifice.
Je reviens à ce qu'on a appelé l'art des tranchées. Le poilu, il n'était pas tout le temps à l'offensive, en fait. Il y avait parfois de très longues périodes d'inaction et d'ennui. Moi, j'ai à la maison des douilles d'obus gravées par mes arrière-grands-parents, ce qui veut dire que, bah, entre deux offensives, des fois, il pouvait s'écouler beaucoup de temps et beaucoup d'ennui.
Ouais. De manière, c'est simple. Hein. Les hommes, la journée, se cachaient pour éviter d'être repérés, travaillaient la nuit. Donc la nuit, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient réparer les réseaux de barbelés, ils allaient creuser d'autres tranchées, ils allaient chercher des tôles, comme on a vu, là, pour faire des abris. Donc ils travaillaient. Mais c'est vrai que la journée, c'était, fallait se cacher, donc on s'ennuyait. Bah, tu vis dans une carrière, qu'est-ce que tu fais? Tu écris, tu vas peut-être faire quelques graffitis sur la pierre, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en dehors des grandes offensives, bon. Et puis de temps en temps, bah, y a l'adjudant ou le sergent qui arrive. Il me faut 2 volontaires pour une patrouille. Ah ouais, 2 volontaires. Donc s'il n'y a personne qui se désigne, ça va être 2 commis d'office. Alors là, c'est l'arbitrage. Ouais, mon lieutenant, mon sergent, j'ai déjà été la dernière fois. Ouais, c'est du favoritisme. Marcel, il y va jamais. C'est toujours moi qui me coltine, tout ça. Et puis la patrouille, bah, c'est aller près des tranchées allemandes la nuit, en rampant, en faisant le moins de bruit, puis en espérant ne pas se faire repérer pour pas que se prendre une grenade ou une rafale de mitraille sur le nez, quoi. Voilà. Soit tu ne fais rien, tu attends que ça passe, voilà, en t'ennuyant avec le fameux cafard du poilu. Hein. On rêve de sa femme, de ses enfants, de sa ferme. Est-ce que ma femme a réussi à rentrer tout le raisin? Est-ce que le vin va être bon? Voilà, c'est des soucis. Puis là, t'as le sergent qui arrive, il me faut 2 volontaires pour la patrouille, pourvu que ça soit pas moi. Merde, c'est moi. Cette nuit, entre minuit et 6h du matin, je vais aller ramper dans les barbelés, dans la boue, je vais chevaucher les cadavres, des corps en décomposition, tout ça pour aller voir ce que font les Boches de l'autre côté ou ce que fait le français de l'autre côté. Voilà. C'est autre chose. Voilà. Nous, le soir, on rentre, on a notre fatigue de la journée, on a peut-être les soucis de savoir ce qu'il va y avoir comme facture dans la boîte aux lettres. Mais eux, c'était autre chose, quoi. Et ces hommes-là se battaient pas pour un idéal, ils se battaient pour éviter que l'ennemi vienne chez eux. En 14, ils avaient connu 70, et ils voulaient pas que leur ferme soit envahie par les Prussiens. Et puis, ils se battaient pour le peu qu'ils avaient, pour leurs 2-3 hectares de terre, leurs 10 vaches, pour leurs femmes, leurs enfants. Ils se battaient pas pour un idéal politique ou nationaliste ou quoi que ce soit. Ils se battaient pour sauver le peu qu'ils avaient, quoi. Voilà. C'est pour ça que les mutineries de 17, les gars, ils disaient « à bas la guerre ». Ils avaient compris que c'était le capitalisme qui faisait marcher la guerre et qu'ils ne voulaient plus se battre pour les Krupps, pour les Schneider, pour les grosses sociétés.
Pour les gros, comme ils disent dans la chanson de Krohn, hein, ce sera votre tour, messieurs les gros, voilà, de monter sur le plateau, car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Voilà, si donc les gens avaient bien compris quand même.
Oui, hein. Bien sûr. Donc voilà, on va ressortir de la carrière. Alors, on aurait pu passer la journée dedans, hein, parce que tu vois, là t'as encore à droite, à gauche, des galeries. Des petits graffitis. Au plafond aussi, tu vois, des petits graffitis qui ont été faits à la lampe. Hein. Ça, ce sont des tableaux de Carrier. C'est des calculs, des additions, des soustractions. Alors, les Carrier, eux, ils étaient payés au bloc, hein. C'est écrit. Hein. Et puis quelquefois, tu as des tableaux, c'est des traits, parce que les hommes ne savent pas écrire. Donc à chaque fois qu'ils sortent un bloc, ils font un trait. Et puis à la fin de la journée, le chef de carrier, il vient et puis il dit, voilà, là c'est la chambre de taille où Léon a travaillé. Et bien Léon, il a, ben, tu vois, comme ici, là, des coups de crayon, c'est les blocs qui ont été sortis. Et puis ben, quelquefois, le maître de carrier, il arrive, il compte, clac, clac, hop, il tire un trait. Bon, ben ça, c'est payé. Tu as fait 10 blocs aujourd'hui, 5 blocs. Et on gagne pas lourd du tout. Voilà, c'est marqué décembre, reste, ça doit être 1932 peut-être. Puis au plafond, tu vois, les graffitis qui étaient faits avec soit une bougie ou alors avec la lampe. Alors il y a peut-être des graffitis qui ont été faits par des poilus. Alors les Allemands, souvent, dans les carrières qu'ils utilisaient en première ligne, ne faisaient aucune inscription. Tu trouves très peu d'inscriptions. Ils avaient interdiction de laisser des traces de leur passage. Par contre, la carrière de Coligny, qui est de l'autre côté, qui est dans la partie nord, eh bien, on a pas mal de dessins, des graffitis. Ici a été Hans, Peter. 1879. Ouais. Comme ça, c'est un carrier. Michel, 1879. Et après, là-bas, ils ont arrêté parce qu'ils sont tombés sur des fissures, des failles de sable, des poches de sable. Donc, ils savent que la pierre, elle va être médiocre. Alors, on ne perd pas de temps à continuer de creuser, on change. On ferme l'atelier et puis hop, on ouvre ailleurs. Vous voyez, ici, c'est pareil, ils ont commencé à creuser puis ils se sont aperçus que tu as des puits de sable. Donc, ils savent qu'ils vont tomber sur une pierre de moins bonne qualité, moins de densité. Donc, on arrête, hop. On va creuser ailleurs. C'est un autre monde, c'est le monde souterrain.
Puis une autre époque aussi. Hein. Voilà.
Alors maintenant, on exploite toujours la pierre, mais c'est avec des machines. Donc maintenant, tu as une machine qui va te sortir 30 tonnes de pierre par jour. 2-3 blocs qui font 15 tonnes chacune. Ils sont deux manipulateurs. Donc là, c'est une grosse tronçonneuse hydraulique avec un bras qui fait 2 mètres de long. Avec une chaîne avec des pointes au carbure qui va découper la pierre. Donc sur les côtés, en haut, en bas. Après, on met des coussins pneumatiques, on gonfle, puis plaf, ça casse. Et après, il y a un engin qui vient chercher la pierre. Là, tout était fait à la main. Voilà, ça, c'est un tire-point.
Morceau de métal.
Non, c'est une lime, un tire-point. Et ça, ça servait à rafuter les lances, les piques. Voilà. Quand il y avait besoin de rafuter, ou alors rafuter les scies à pierre. Parce que je te disais, quand le bloc était tombé, on le découpe à la scie. Donc pour rafuter les scies à pierre. Alors tu t'imagines un peu, hein, fallait pas être feignant. Hein. Alors là, c'est du travail à la lance, parce que tu vois, tous les coups sont presque horizontaux. Là, c'est au pic. Donc c'est à la pioche, on va dire au pic. Et ici, c'est à la lance. Donc, c'est cette fameuse barre qui est suspendue au plafond. Et là, on tape à plat, comme ça. C'est pour ça que tu vois la différence. Tu vois la profondeur. Là, on n'aurait jamais pu faire ça avec un outil à manche. Donc là, c'est une lance. Alors, si c'est grand, c'est une lance. Si c'est un peu plus petit, c'est une aiguille. Voilà. Et puis, là, tu vois, le petit trou qui est en haut, c'était pour mettre le portique qui supportait la lance. Voilà. Travail de bagnard, de forçat. Maintenant, on va repartir par où on est venu. Donc, on va repartir par là. Tu as vite fait de tourner en rond si tu ne fais pas attention. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est toutes ces taches noires au plafond. Regarde. Il faut imaginer qu'à chaque fois qu'il y a une tache, il y avait un bloc qui a été sorti. Là, tu vois le mur, les empreintes de blocs qui ont sorti, qui sont alignées, puis au plafond, regarde. Tu vois, en face de chaque bloc, tu as une petite tache noire. Tu vois, clac, 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 clac. Là, ici, ils ont sorti, pour faire cette galerie-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire qu'il y a 10 largeurs de blocs qui ont été sortis pour faire cette galerie-là. Et puis après, bah, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 blocs les uns derrière les autres, donc sur 12 de large, voilà. Donc tu calcules le nombre de blocs. 12 fois 30, ça fait beaucoup. Voilà. Et ici, tu vois, ces petites croix-là, ça veut dire qu'il y a eu deux accidents ici. Voilà. C'est deux gars qui se sont peut-être fait écraser par un bloc ou par un plafond qui est tombé, quelque chose. Donc c'est qu'il y a eu deux morts. Alors, on en trouve quelques fois, mais pas en grosse quantité. Alors, maintenant, on est passé là tout à l'heure, on va repartir par là. Bon, après, tu as des graffitis qui sont un peu plus récents, tu vois, là, on a...
Legolize Ganja, je pense pas que ce soit un soldat de l'armée allemande. Non.
Mais il faut se dire une chose... Les graffitis que l'on a, comme celui de 1872, peut-être que le chef d'exploitation, le carrier, il a dit « Ouais, c'est dégueulasse, vous marquez vos cochonneries, tout ça. » Mais pour nous, aujourd'hui, c'est des traces historiques, des traces rupestres. Eh bien, dans 100 ans, celui qui découvrira ce graffiti-là dira « Mais qu'est-ce que c'est que ce triangle ?» Bon, nous, on sait que c'est un pétard, mais dans 100 ans, dans 200 ans...
Si on existe encore, je pense qu'ils sauront encore.
Ouais, peut-être.
Si on est encore là.
Ouais, c'est... Si l'humanité est encore là. Bon, ben on va ressortir doucement.
Hein. Je sens bien la fraîcheur, commence à me pénétrer bien dans les chairs.
Au bout d'un certain temps, ton corps, tes habits reprennent la température et là, tu te dis, il fait 12 degrés. Là, on commence à avoir un peu le nez qui goûte. Là. Voilà.
On commence à percevoir la lueur de l'extérieur.
La chaleur, voilà. La chaleur qui rentre tout doucement. Voilà. Bon, mais maintenant, on a fini, on ressort.
Allez. Ah, et ben voilà, nous voilà revenus dans le monde des vivants. Mais alors, je me dis que finalement, un Troufion qui sort de là, il se dit, oui, je sors de cette caverne humide et obscure qui pue pour potentiellement aller me faire trucider par l'ennemi. Il y a de quoi, effectivement, avoir le cafard.
Eh oui, et puis surtout, c'est que nous, on ressort, il fait beau, la nature est belle, les oiseaux qui chantent, eux, quand ils sortaient, c'était le bombardement, la mitraille, la pluie, le froid, la boue, vivre à côté des cadavres, en décomposition, avoir comme seul ami à quatre pattes un rat qui vient vous galoper sur le visage quand vous dormez. Moi, quand j'étais gamin, souvent, les vieux, quand ils racontaient leur guerre de 14, ils disaient « ça y est, le vieux con, il recommence, il raconte sa guerre ». Mais maintenant qu'on arrive à un certain âge, on se dit « mais... ce qu'ils ont vécu, j'aurais pas voulu le vivre. »
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on va laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés. Nous sommes les sacrifiés.
Didier, tu es de Crane ou de Craon, de la fameuse chanson.
Oui, la chanson de Craon, Adieu la vie, adieu l'amour. Ouais. La première fois que j'ai entendu parler de la chanson de Craon, c'était en 1977. C'était pour le 60e anniversaire de la bataille.
Donc tu es de 66, toi.
Je suis de 66. Pour nous, c'était une chanson révolutionnaire.
C'est une chanson révolutionnaire.
C'est une chanson révolutionnaire. Mais depuis l'histoire de Jospin, donc, ils ont essayé de
réhabiliter ces gens qui avaient été fusillés hein, pour désertion ou autre. En 17, machin, on a réhabilité ces soldats français fusillés par leurs frères d'armes, en fait.
Voilà. Et pendant longtemps, on nous a fait croire que c'était les révolutionnaires et ci et ça. Et quand tu lis la littérature sur les mutineries, tu t'aperçois que bah, ces gars-là, c'est des gars qui avaient picolé un peu trop. Il y avait toujours un gars qui était un peu communiste sur les bords, qui disait « Ouais, on se bat pour les riches et tout. Ah bah la guerre !» Et puis quand t'as bu trop, voilà, la plupart du temps, c'était ça.
Oui, t'avais aussi excédé qu'on t'envoie faire des manœuvres qui servent à rien, aller te faire la trouée et la paillasse pour que dalle, et puis tu rentrais, t'étais furieux contre tes supérieurs aussi. Plein de possibilités. J'ai entendu l'histoire aussi de ce petit Breton qui s'est fait passer par les armes parce qu'il n'avait pas obéi aux ordres, il parlait pas le français. Ouais. Il y avait aussi ces gens, comme les Anglais disent, shell-shocked, complètement ébranlés par les explosions et que ça avait rendu fou, ouais, et qui étaient incapables d'obéir aux ordres aussi.
Il faut savoir aussi, c'est que dans l'histoire des mutineries, comme je te dis, il y en a beaucoup qui avaient picolé, qui s'étaient fait monter un peu le bourrichon. Et puis il y avait aussi des règlements de compte dans les sections, dans les escouades, tout ça. Bon, ouais, lui, c'est un communiste, lui, c'est ci, lui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Sur les 500 condamnations à mort, il y en a eu 50 qui ont été exécutées. Il y en a un qui me touche particulièrement. C'est le seul qui a été exécuté sur le chemin des Dames. Il a été exécuté à Pessy. Il s'appelait Didier. Son nom de famille, c'était Didier. Père de famille, il a été exécuté parce que il a été tiré au sort. Voilà. Il fallait en prendre un dans l'eau. C'est lui qui a... Il a été exécuté dans le village de Pessy, dans un petit coin du bois, voilà. Matin à l'aube, bon. Voilà. Tiré au sort. Et il y en a beaucoup, ils disaient, on refuse pas de se battre, mais on refuse d'attaquer bêtement. Voilà. On refuse pas de prendre les tranchées, on va monter aux tranchées, mais on refuse d'attaquer. Parce qu'on sait que c'est mal préparé, ça sert à rien. Voilà, c'est tout. Et c'est Pétain qui a dit, stop, on arrête.
On en fusille quand même quelques-uns, voilà, mais...
Des exemples. Mais on arrête d'attaquer bêtement pour en rien, quoi. Voilà. Maintenant, on va faire des objectifs ciblés, bien préparer le terrain, comme Malmaison au mois d'octobre. Ils ont attaqué à 6h45, à 9h, le fort était pris, voilà. Tout était bien préparé, bien fait, voilà.
Et c'est ainsi que Pétain forgea sa méphitique légende, et ça c'est une autre histoire qu'on vous a déjà beaucoup racontée dans cette émission. C'est en tout cas ici que prend fin cette étrange balade underground guidée par Didier Ledet, qu'on remercie bien. Reportage à réécouter sur notre site, polemixetlavoixoff.com, avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio libre préférée. Guerre à la guerre, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.